Émile Gaboriau. Les comédiennes de Molière. Mademoiselle Molière, Armande Béjart, 1645-1700.
Premièrement, elle a les yeux petits.
Cela est vrai, elle a les yeux petits, mais elle les a pleins de feu, les plus brillants, les plus perçants du monde, les plus touchants qu'on puisse voir.
Elle a la bouche grande.
Oui, mais on y voit des grâces qu'on ne voit pas aux autres bouches. Et cette bouche, en la voyant, inspire des désirs. Elle est la plus attrayante, la plus amoureuse du monde.
Pour sa taille, elle n'est pas grande.
Non, mais elle est aisée et bien prise.
Elle affecte une nonchalance dans son parler et dans ses actions.
Il est vrai, mais elle a grâce à tout cela, et ses manières sont engageantes. On ne sait quel charme à s'insinuer dans les cœurs.
Pour de l'esprit...
Oh, elle en a, Coviel, du plus fin, du plus délicat.
Sa conversation...
Sa conversation est charmante.
Elle est toujours sérieuse.
Veux-tu de ses enjouements épanouis, de ses joies toujours ouvertes? Et vois-tu rien de plus impertinent que ces femmes qui rient à tout propos?
Mais enfin, elle est capricieuse autant que personne au monde.
Oui, elle est capricieuse, j'en demeure d'accord. Mais tout s'y est aux belles, on souffre tout des belles.
Puisque cela va comme cela, je vois bien que vous avez envie de l'aimer toujours.
Moi, j'aimerais mieux mourir, et je vais la haïr autant que je l'ai aimée.
Tel est l'amoureux et charmant portrait qu'après 8 ans de mariage, Molière trace de cette froide et implacable coquette qui fut le désespoir de sa vie et peut-être aussi, hélas, le terrible aiguillon de son génie. Mari toujours trompé, amant toujours épris, sans cesse Molière, en dépit de ses résolutions, revient à cette femme qu'il aime d'un incurable amour. À chaque page de son œuvre, on la voit reparaître. Dans le Misanthrope, aussi bien que dans l'École des femmes, c'est elle, toujours elle. La comédie de Molière, cette comédie irrésistible, c'est le drame douloureux de sa vie intime. Subissant la fatalité du génie, il fait notre rire de ses pleurs. C'est lui-même qu'il met en scène et c'est sa passion qui l'immole aux bravos de la foule. Mais combien elle est navrante, son ironie! Sous cette verve désolante, sous ces éclats de rire convulsifs, on distingue un sanglot sourd. Infortuné grand homme, il n'est pas un de ses maux, pas une de ses douleurs qui échappe à son analyse et à ses sarcasmes. Toujours malade, toujours mourant, il n'a pas assez de raillerie contre la médecine et il rend le dernier soupir en bernant les médecins. Cocu sublime, il verse à pleine main le ridicule sur les maris trompés. Presque tous les contemporains ont pour cet indigne Béjart les yeux de Molière. Il n'y a qu'une voix pour louer ses grâces, son esprit, sa beauté, son talent. Elle avait la voix extrêmement jolie, est-il dit dans l'histoire du théâtre français des Frères Parfaits, et elle chantait avec un grand goût le français et l'italien. Personne mieux qu'elle n'a su se mettre à l'air de son visage par l'arrangement de sa coiffure et, plus noblement, par l'ajustement de son habit. En scène, elle faisait voir beaucoup de jugement dans son récit. Son jeu continuait encore, lors même que son rôle était fini. Elle n'était jamais inutile sur le théâtre et elle jouait presque aussi bien quand elle écoutait que quand elle parlait. Si, parfois, elle retouchait à ses cheveux, si elle raccommodait ses nœuds ou ses pierreries, ses petites façons cachaient une satire judicieuse et spirituelle. Par là, elle entrait dans le ridicule des femmes qu'elle voulait jouer. Oublions pour un instant la femme. N'est-ce pas là le croquis d'une comédienne accomplie? Et ces lignes si simples, il est bon de le noter, datent d'un temps bien autrement exigeant que le nôtre. Des éloges hyperboliques ne récompensaient pas alors le plus léger effort d'une actrice. Le diapason de la louange a singulièrement monté depuis 2 siècles. Un pas mal de 1663 se traduirait aujourd'hui par le cri « sublime » délayé en 5 colonnes de feuilleton. Mademoiselle Poisson, dans une lettre sur la vie et les ouvrages de Molière et sur les comédiens de son temps, insérée au Mercure en mai 1740, consacre à l'abbé Jean quelques lignes qui achèvent de la peindre. Elle avait une taille médiocre, mais un air engageant, quoiqu'avec de très petits yeux, une bouche fort grande et fort plate, mais faisant tout avec grâce jusqu'aux plus petites choses, quoiqu'elle se mit très extraordinairement et d'une manière presque toujours opposée à la mode du temps. Une grande originalité, voilà donc le trait distinctif de la femme de Molière. Elle lui dut cette grâce un peu étrange et cette puissance de séduction dont ne savaient pas se défendre ceux-mêmes qui connaissaient la sécheresse de son cœur. Armande, Grésinde, Claire, Élisabeth Béjart étaient nées en 1645, l'année même où le jeune Poquelin abandonnait le palais pour les coulisses de l'illustre théâtre. Toute jeune encore, elle fut confiée à sa sœur Madeleine, dont elle suivit la fortune. Ainsi, elle grandit dans la maison et sous les yeux de Molière, qui put assister à l'éclosion et à l'épanouissement de cette fleur de jeunesse et de beauté. À 12 ans, à l'âge où la timidité et la maussaderie viennent aux petites filles avec les premières idées, Armande avait déjà des grâces virginales et des caresses félines. Madeleine était souvent pour elle une mère trop sévère, mais elle trouvait dans Molière un protecteur d'une indulgence inépuisable, toujours prêt à prendre son parti, toujours à genoux devant ses moindres fantaisies. Cette bienveillance si attentive, elle la paya en monnaie d'enfant gâté, en caresses et en cajolerie. Elle s'habitua à considérer ce vieil ami qui veillait sur elle comme un bon génie ayant mission de combler tous ses vœux. Femme avant l'âge, coquette sans le savoir, elle déploya pour lui les séductions les plus puissantes. Sa reconnaissance s'épanchait en 1000 preuves de l'amitié la plus vive. Molière ne sut pas résister à ces démonstrations, ou plutôt, il se trompa sur leur nature. Ce grand homme, pour qui le cœur humain n'avait pas de mystère, ne sut pas lire dans le cœur de cette Agnès. Il se crut aimé. Alors il fut pris d'une de ces passions terribles qui éclatent dans le cœur des hommes à l'heure où leur sang s'apaise. Il forma le projet d'épouser Armande. Lui qui, au banquet de l'amour, n'avait vécu que des reliefs d'autrui, il se flatta de posséder seul et pour toujours cette ravissante enfant. Mais il y avait loin de l'idée à la réalisation de ce mariage. La situation de Molière était des plus fausses et pleine de difficultés. Au moment où il se laissait emporter par ce grand amour, il se trouvait pris entre les deux passions de sa jeunesse, entre Madeleine et Mademoiselle de Brie. Qu'allaient dire ces deux femmes ? Dès que Mademoiselle de Brie connut le dessein de Molière, elle mit tout en usage pour empêcher l'accomplissement d'un mariage qui offensait si fort sa gloire. Rien ne lui paraissait plus cruel que de céder un amant à une petite créature qu'elle jugeait, avec quelque sorte de raison, lui être inférieure en mérite. Elle en témoigna son inquiétude à Molière et le mit en quelque incertitude par ses reproches, car il conservait beaucoup d'honnêteté pour elle et la traitait avec toutes sortes d'égards. Mais les efforts de Mademoiselle de Brie furent aussi vains que ceux de Madeleine. Le 20 février 1662, croyant signer un long bail avec le bonheur, Molière épousa Armande Béjart. Il avait 40 ans, elle en avait 17. Déjà, à cette époque, la future Célimène avait goûté des enivrements du théâtre. Ses succès dans le tragique, aussi bien que dans le comique, lui avaient fait le plus grand honneur. L'année précédente, à Vaux, à cette fête si magnifique donnée par Fouquet à Louis XIV, Armande avait obtenu un immense succès de beauté. Au milieu de 20 jets d'eau naturelle, tout à coup, un rocher se changea en une coquille, d'où sortit bientôt la naïade Béjart, chargée de débiter le prologue de Pélisson. Coquille et naïade furent les merveilles de la fête. Le bon La Fontaine n'a garde de les oublier. On fit sur ce sujet plus de 20 chansons, dont voici un couplet. Peut-on voir nymphe plus gentille qu'était Béjart l'autre jour? Lorsqu'on vit s'ouvrir sa coquille, tout le monde disait alentour. Lorsqu'on vit s'ouvrir sa coquille, voici la mère de l'amour. Plus prudent, ou plutôt moins aveugle, Molière aurait arraché sa femme aux tentations du théâtre. Mais, hélas, le malheureux, il était fier de son talent, il travaillait de toutes ses forces à la mettre en évidence, il rêvait pour elle des rôles admirables afin de la faire applaudir. Mais les illusions de Molière s'envolèrent bien vite. Son mariage, troublé dès les premiers jours par les récriminations ou les jalousies de Madeleine et de Mademoiselle de Brie, n'eut pas, pour ainsi dire, de lune de miel. Moins de 6 mois plus tard, le charme était rompu. Un an ne s'était pas écoulé que déjà le grand homme, au désespoir, maudissait et son fatal amour et sa faiblesse plus grande encore. C'est maintenant dans son livre aussi rare que curieux, La fameuse comédienne, qu'il faut aller chercher la suite de l'histoire d'Armande. Ce ne sont ni les détails tristes, ni les aventures scandaleuses qui manquent. La fortune de Molière attira plus d'amants à sa femme que ce mérite prétendu qu'il a depuis rendu si fière et si hautaine. Il n'y avait personne à la cour qui ne se fît une affaire d'en avoir des faveurs. L'abbé de Richelieu fut un des tout premiers qui se mit en tête d'en faire sa maîtresse. Comme il était fort libéral et que la demoiselle aimait extrêmement la dépense, la chose fut bientôt conclue. Ils convinrent qu'il lui donnerait 4 pistoles par jour, sans compter les habits et les régals qui étaient le par-dessus. L'abbé ne manquait pas de lui envoyer tous les matins par un page le gage de leur traité et de l'aller voir toutes les après-dînées. Cela dura quelques mois sans trouble, mais Molière, ayant fait la princesse des Lides, où la Molière joua la princesse, qui était le premier rôle considérable où elle eût paru, parce que la Duparc les jouait tous et était l'héroïne du théâtre, elle y parut avec tant d'éclat que Molière eut tout lieu de se repentir de l'avoir exposée au milieu de cette jeunesse brillante de la cour. Car à peine fut-elle à Chambord, où le roi donnait ce divertissement à toute la cour, qu'elle devint folle du comte de Guiche et que le comte de Lauzun devint fou d'elle. Ce dernier n'épargna rien pour entrer dans ses bonnes grâces, mais la Molière, qui était entêtée de son héros, ne voulut entendre à aucune proposition et se contentait d'aller pleurer chez la Duparc l'indifférence que le comte de Guiche témoignait pour elle. Le comte de Lauzun ne perdit pas pour cela l'espérance de la faire venir où il souhaitait, l'expérience lui ayant appris que rien ne pouvait lui résister. Il connaissait, outre cela, le comte de Guiche pour un homme qui comptait pour peu de bonne fortune le bonheur d'être aimé des dames. C'est pourquoi il ne douta pas que ses manières indolentes ne rebutassent enfin la Molière et que son étoile ne produisit alors dans son cœur ce qu'elle avait produit dans le cœur de toutes les femmes à qui il avait voulu plaire. Il ne se trompa pas. La Molière, irritée des froideurs du comte de Guiche, se jeta dans les bras du comte de Lauzun, comme en un asile qui pouvait la garantir d'une seconde rechute pour un ingrat. Mais l'abbé de Richelieu avait été averti de tout ce fracas. Il la fit épier et trouva le moyen de surprendre une lettre qu'elle écrivait au comte de Guiche durant le temps de leur intrigue. Les termes de cette lettre découvrirent clairement à l'abbé que jamais Armande n'avait eu de tendresse que pour le comte de Guiche, même au temps où elle lui faisait, à lui, les plus belles protestations. Furieux d'avoir été pris pour dupe, il ne s'amusa pas aux reproches qui ne servent jamais de rien. Il se trouva seulement bien heureux de ne l'avoir prise qu'à la journée et résolut de la laisser là, ce qu'il fit, après avoir fait apercevoir à Molière que le grand soin qu'il avait de plaire au public lui ôtait celui d'examiner la conduite de sa femme et que, pendant qu'il travaillait à divertir tout le monde travaillait à divertir sa femme. Aucun des bruits qui couraient sur Armande, déjà la fable de la cour, n'était encore venu troubler la sécurité conjugale de Molière. Les charitables révélations de l'abbé de Richelieu le surprirent donc comme un coup de foudre. Sans prendre le temps de réfléchir ni de rien vérifier, il courut chez sa femme, désespéré et comme fou de douleur. Là, il éclata en reproches amers, parla de son amour et de ses droits et de l'indignité qu'il y avait à outrager un mari qui était à la fois le plus tendre des pères et le plus épris des amants. À ses reproches, Armande ne répondit d'abord que par un torrent de pleurs. Elle n'était pas grande comédienne seulement sur le théâtre. Peu à peu, avec un art infini, elle repoussa toutes les accusations. Trop habile pour nier son inclination pour le comte de Guiche, elle l'avoua comme une fantaisie, aussi passagère qu'innocente, dont elle se repentait et qu'il fallait mettre sur le compte de sa jeunesse, jurant d'ailleurs que rien de criminel ne s'était passé et qu'elle était bien revenue de son erreur. Toute cette confession, elle la fit d'une voix si touchante et avec un air de si grande ingénuité que son innocence parut démontrée. Les larmes de la femme adorée seront toujours la plus victorieuse des justifications. Molière était amoureux, pouvait-il douter de la vertu d'Armande ? En amour, il faut tout croire ou tout nier. Non seulement il pardonna, mais encore il s'excusa de ses emportements injustes. C'était lui, à la fin, qui demandait grâce. La paix fut signée. Hélas, ce n'était qu'une trêve. De retour à Paris, après le voyage de Chambord, Armande, de plus belle, recommença ses équipées galantes. L'intérieur de Molière devint un enfer. Vainement, il essayait de fermer les yeux. À chaque moment, par ses audaces, elle le forçait à les ouvrir. Il avait trop d'ennemis, d'ailleurs, pour pouvoir rester en repos. Son amour était le défaut de sa cuirasse, on le savait, et on le frappait par sa femme. Sa passion, lâche comme toutes les passions furieuses d'hommes déjà vieux pour des femmes jeunes, implorait le mensonge. Armande ne se donna bientôt plus la peine de mentir. Aussi, les orages se succédaient sans interruption. C'était chaque jour quelque trahison nouvelle, suivie d'un nouveau pardon. Et Molière dut souffrir plus qu'un autre, car il ne s'abusa jamais. Il se voyait, se jugeait et maudissait son incroyable faiblesse. Mais il était sans courage et sans raison devant cette indigne créature qui pouvait, à son gré, lui donner les ravissements du septième ciel ou lui infliger toutes les tortures de l'enfer. Ses convulsions et ses tempêtes, ses transitions brusques et terribles, brisèrent le cœur du grand homme. Plus tard, elles le tuèrent. Cependant, au milieu de ces orages domestiques, dans l'intervalle des brouilles et des raccommodements, Armande avait donné deux enfants à son mari, d'abord un fils, né le 19 janvier 1664, qui fut le filleul de Louis XIV et de Madame Henriette, puis une fille, tenue sur les fonts de baptême par le comte de Modène et Madeleine Béjart. Ces deux enfants pouvaient ramener, sinon le bonheur, au moins la tranquillité au foyer de Molière. Mais Armande était aussi mauvaise mère qu'indigne épouse. Pour tout dire, cette âme froide était incapable d'un sentiment fort et durable. Armande n'aima jamais qu'elle-même. Follement vaniteuse, coquette au-delà de toute croyance, capricieuse, enragée de plaisir, fastueuse, prodigue, jalouse de bruit et d'éclat, elle ne sut jamais comprendre le grand homme qui avait mis en elle toutes ses espérances de bonheur. Indifférente à ses ambitions, elle ne songea jamais à l'aider à supporter le poids de ses écrasants labeurs et de ses soucis dévorants. Si elle fut sensible à ses succès, c'est qu'il en rejaillissait quelque chose sur elle-même et que la gloire de Molière devait donner plus d'attrait à ses charmes et plus de prix à ses faveurs. Aux adorations passionnées du poète de génie, elle préférait les plates et banales adulations des petits maîtres et des marquis. Elle ne marchait qu'entourée d'un insipide cortège de soupirants. Le soir, au théâtre, pendant sa toilette, sa loge était assiégée. Elle se plaisait à attirer chez elle tous les oisifs et les étourdis de la ville et de la cour. Et Molière, chassé pour ainsi dire de sa maison, désespéré, en proie à tous les tourments de la jalousie, était réduit à aller chercher un peu de calme et de repos à Auteuil, dans une petite habitation qu'il louait et qui était le sanctuaire de ses pensées. Une vieille entremetteuse nommée la Châteauneuf ne contribua pas peu au désordre de la femme de Molière, qui ouvrait les loges au théâtre Guénégaud, avait réussi à s'insinuer dans les bonnes grâces d'Armande lors de son retour de Chambord. Bientôt, elle devint sa confidente et l'instrument de toutes ses intrigues galantes. Avide, rusée, rompue à l'ignominie, connaissant tous les débauchés de la cour et de la ville pour avoir été employée par eux, la Châteauneuf avait toutes les qualités de son emploi. Aussi, la dorée comédienne avait en elle une si grande confiance qu'elle n'acceptait plus de galants que de sa main et qu'elle recevait les yeux fermés ceux qui lui étaient envoyés par elle. pour arriver à la femme de Molière, il fallait nécessairement s'adresser à la confidente qui, discrète par intérêt, mettait toute son habileté à sauver les apparences. Si bien que, tandis que la conquête d'Armande n'était plus qu'une question d'argent à débattre avec la Châteauneuf, quantité de naïfs la croyaient d'une vertu sans exemple. Tels furent pourtant les dérèglements d'Armande. Si grand fut le scandale que Molière, à la fin, s'alarma pour sa considération personnelle et pour son honneur. Les plus dévoués de ses amis s'efforçaient, en outre, de le rappeler à la raison et à la dignité. Sa patience se lassa et, à la suite d'une scène plus violente que de coutume, il déclara à sa femme qu'il était décidé à la faire enfermer. Armande, à cette menace, se livra au plus violent désespoir. Elle s'évanouit, elle parut mourante. Molière fut épouvanté, tout son amour se réveilla plus violent que jamais, et, une fois encore, non la dernière, il promit le pardon. Mais depuis longtemps déjà, l'indigne coquette avait conçu pour son mari une aversion terrible, l'occasion de s'en débarrasser était trop belle pour qu'elle la laissât échapper. C'est donc avec le dernier mépris qu'elle reçut les excuses et les protestations du malheureux. À son tour, elle se montra indignée. Toutes ces querelles, disait-elle, étaient causées par la Debrie qui vivait sous leur toit. Elle accusa son mari d'avoir conservé des relations avec cette femme jalouse et aussi, peut-être, avec Madeleine. Enfin, elle lui déclara qu'elle ne se sentait plus le courage de vivre avec lui, qu'elle aimerait mieux mourir et que tout devait être fini entre eux. En vain, Molière, au désespoir, essaya de la faire revenir sur cette résolution terrible. Elle tint bon. Il fut convenu que, tout en habitant la même maison, ils seraient désormais comme des étrangers et ne se parleraient plus qu'au théâtre. Ils se séparèrent sans arrêt du Parlement. C'est alors que Molière revint à Mademoiselle Debrie, cette amie des mauvais jours. Mais que pouvaient les consolations de l'amitié contre les douleurs de cet immense amour ? Le grand homme avait au cœur une de ces incurables plaies que l'absence avive, loin de les cicatriser. Une conversation empruntée à la fameuse comédienne, une page d'histoire, peint admirablement les angoisses et les douleurs du mari d'Armande. Molière rêvait un jour dans son jardin d'Auteuil quand un de ses amis, nommé Chapelle, qui venait s'y promener par hasard, l'aborda et, le trouvant plus inquiet que de coutume, lui en demanda plusieurs fois le sujet. Molière, qui eut quelque honte de se sentir si peu de constance pour un malheur si fort à la mode, résista autant qu'il put, mais comme il était alors dans l'une de ces plénitudes de cœur si connues par les gens qui ont aimé, il céda à l'envie de se soulager et avoua de bonne foi à son ami que la manière dont il était forcé d'en user avec sa femme était la cause de l'accablement où il se trouvait. Chapelle, qu'il croyait être au-dessus de ces sortes de choses, le railla de ce qu'un homme comme lui, qui savait si bien peindre le faible des autres hommes, tombait dans celui qu'il blâmait tous les jours, et lui fit voir que le plus ridicule de tous était d'aimer une personne qui ne répond pas à la tendresse qu'on a pour elle. « Pour moi, lui dit-il, je vous avoue que si j'étais assez malheureux pour me trouver en pareil cas, et que je fusse fortement persuadé que la personne que j'aimerais accordât ses faveurs à d'autres, j'aurais tant de mépris pour elle qu'il me guérirait infailliblement de ma passion. Encore avez-vous une satisfaction que vous n'auriez pas si c'était une maîtresse. Et la vengeance, qui prend ordinairement la place de l'amour dans un cœur outragé, vous peut payer tous les chagrins que vous cause votre épouse, puisque vous n'avez qu'à la faire enfermer. Ce sera même un moyen assuré de vous mettre l'esprit en repos. » Molière, qui avait écouté son ami avec assez de tranquillité, l'interrompit pour lui demander s'il n'avait jamais été amoureux. « Oui, lui répondit Chapelle, je l'ai été, comme un homme de bon sens doit l'être. Mais je ne me serais pas fait une si grande peine pour une chose que mon honneur m'aurait conseillé de faire, et je rougis pour vous de vous trouver si incertain. » « Je vois bien que vous n'avez encore rien aimé, lui répondit Molière, et que vous avez pris la figure de l'amour pour l'amour même. Je ne vous rapporterai point une infinité d'exemples qui vous feraient connaître la puissance de cette passion. Je vous ferai seulement un récit fidèle de mon embarras pour vous faire comprendre combien on est peu maître de soi quand elle a une fois pris sur nous l'ascendant que le tempérament lui donne d'ordinaire. Pour vous répondre, donc, sur la connaissance parfaite que vous dites que j'ai du cœur de l'homme, par les portraits que j'en expose tous les jours au public, je demeurerai d'accord que je me suis étudié autant que j'ai pu à connaître leurs faibles. Mais si ma science m'a appris qu'on pouvait fuir le péril, mon expérience ne m'a que trop fait voir qu'il était impossible de l'éviter. J'en juge tous les jours par moi-même. Je suis né avec la dernière disposition à la tendresse et comme tous mes efforts n'ont pu vaincre les penchants que j'avais à l'amour, j'ai cherché à me rendre heureux, c'est-à-dire autant qu'on peut l'être avec un cœur sensible. J'étais persuadé qu'il y avait fort peu de femmes qui méritassent un attachement sincère, que l'intérêt, l'ambition et la vanité font le nœud de toutes leurs intrigues. J'ai voulu que l'innocence de mon choix me répondît de mon bonheur. J'ai pris ma femme, pour ainsi dire, dès le berceau. Je l'ai élevée avec des soins qui ont fait naître des bruits dont vous avez sans doute entendu parler. Je me suis mise en tête que je pourrais lui inspirer, par habitude, des sentiments que le temps ne pourrait détruire, et je n'ai rien oublié pour y parvenir. Comme elle était encore fort jeune quand je l'épousai, je ne m'aperçus pas de ses méchantes inclinations, et je me crus un peu moins malheureux que la plupart de ceux qui prennent de pareils engagements. Aussi, le mariage ne ralentit point mes empressements. Mais je lui trouvais, dans la suite, tant d'indifférence que je commençais à m'apercevoir que toutes mes précautions avaient été inutiles et que ceux qu'elle ressentait pour moi étaient bien éloignés de ceux que j'aurais voulu pour être heureux. Je me fis à moi-même des reproches sur une délicatesse qui me semblait ridicule et j'attribuai à son humeur ce qui était un effet de son peu de tendresse pour moi. Je n'eus que trop de moyens de me convaincre de mon erreur. Et la folle passion qu'elle eut quelque temps après pour le comte de Guiche fit trop de bruit pour me laisser dans cette tranquillité apparente. Je n'épargnai rien à la première connaissance que j'en eus pour me vaincre moi-même dans l'impossibilité où je me trouvais à la changer. Je me servis pour cela de toutes les forces de mon esprit, j'appelai à mon secours tout ce qui pouvait contribuer à ma consolation. Je la considérais comme une personne de qui tout le mérite était dans l'innocence et qui, par cette raison, n'en conservait plus depuis son infidélité. Je pris, dès lors, la résolution de vivre avec elle comme un honnête homme qui a une femme coquette et qui en est bien persuadé, quoi qu'il puisse dire que sa méchante conduite ne doive pas contribuer à lui ôter sa réputation. Mais j'eus le chagrin de voir qu'une personne sans grande beauté et qui doit le peu d'esprit qu'on lui trouve à l'éducation que je lui ai donnée, détruisit en un instant toute ma philosophie. Sa présence me fit oublier toutes mes résolutions, et les premières paroles qu'elle me dit pour sa défense me laissèrent si convaincu que mes soupçons étaient mal fondés que je lui demandai pardon d'avoir été si crédule. Mes bontés ne l'ont point changé. Je me suis donc déterminé à vivre avec elle comme si elle n'était pas ma femme. Mais si vous saviez ce que je souffre, vous auriez pitié de moi. Ma passion est venue à un tel point qu'elle va jusqu'à entrer avec compassion dans ses intérêts, et quand je considère combien il m'est impossible de vaincre ce que je ressens pour elle, je me dis en même temps qu'elle a peut-être la même difficulté à détruire le penchant qu'elle a d'être coquette, et je me trouve plus de disposition à la plaindre qu'à la blâmer. Vous me direz sans doute qu'il faut être poète pour aimer de cette manière. Mais pour moi, je crois qu'il n'y a qu'une sorte d'amour et que les gens qui n'ont point senti de semblable délicatesse n'ont jamais aimé véritablement. Toutes les choses du monde ont du rapport avec elle dans mon cœur. Mon idée en est si fortement occupée que je ne sais rien en son absence qui puisse me divertir. Quand je la vois, une émotion et des transports qu'on peut sentir, mais qu'on ne saurait exprimer, m'ôtent l'usage de la réflexion. Je n'ai plus Dieu que pour ses défauts, il m'en reste seulement pour ce qu'elle a d'aimable. N'est-ce pas là le dernier point de la folie, et n'admirez-vous pas que tout ce que j'ai de raison ne me serve qu'à me faire connaître ma faiblesse, sans pouvoir en triompher ? Chapelle se retira navrée. Tant de douleurs et tant de faiblesses avaient remué le cœur de cet épicurien qui traversait la vie titubant, le verre en main et couronné de roses. Il n'essaya pas des consolations banales. « Vous êtes plus à plaindre que je ne pensais, » dit-il à son ami. « Il vous faut tout espérer du temps. » Mais les mois et les années devaient s'écouler sans rien changer au sort de Molière. Il vida la coupe jusqu'à la lie. Peut-être le malheur est-il l'expiation fatale du génie. Réfugiée à Auteuil, sa femme était encore son unique pensée et la plus chère. Alors, il travaillait à cette grande comédie du misanthrope où il s'est mis tout entier. Parfois, en écoutant ce chef-d'œuvre, je me suis imaginé que j'entendais Molière lui-même nous racontant les secrets les plus intimes et les plus douloureux de sa vie. Cette Célimène, si futile et si charmante, si dangereuse et si séduisante, cette coquette incorrigible qui ne comprend pas quel noble cœur elle blesse à mort, n'est-ce pas Armand de Béjart, embelli de tout l'amour et de tout le génie de Molière? Et Alceste, qui donc est-il? Aux premières représentations, on crut reconnaître le duc de Montausier, et le duc de Montausier disait avec juste raison « Merci, c'est bien de l'honneur ». Mais nous, nous reconnaissons Molière. Ce misanthrope est quelque chose de plus qu'un gentilhomme honnête homme et mécontent. C'est un grand génie méconnu qui souffre et qui attend. C'est un sage passionné, un honnête homme, au cœur grand et excellent. Puis, autour de ces personnages principaux, ne savons-nous pas le nom de tous les autres? Sous la perruque blonde d'Acaste, tout fier de sa vaste ringrave et à ses amas de rubans, chacun a reconnu le comte de Guiche. On sait que Clitandre s'appelle Monsieur de Lauzun. Ainsi, Molière peut railler les galants de sa femme, en plein théâtre il les maltraite et les tourne en ridicule. Ce grand rôle d'Alceste, Molière voulut le jouer après l'avoir créé. Sans doute, il y trouvait une volupté âcre et poignante. Il y déployait, dit un contemporain, une verve désolante. Qui rendra jamais, en effet, tout ce qu'il y devait mettre d'indulgence et de vertueuse indignation, de tristesse, de passion, de brusquerie. Est-il rien de plus beau que la lutte de ses amants, que ce duel entre l'amour le plus tendre et la plus glaciale coquetterie? En ce moment, Molière, séparé de sa femme, ne la voyait qu'au théâtre. Comme il jouait Alceste, elle jouait Célimène. Aussi a-t-on dit qu'il avait fait cette comédie uniquement pour pouvoir encore, sans l'acheter, dire à la perfide « Je t'aime », uniquement pour pouvoir tomber à ses genoux et lui offrir le pardon et l'oubli. Peut-être ils ont raison, ceux qui ont dit cela. Molière, dans le Misanthrope, se plaît à raviver toutes ses douleurs du passé, il rappelle les moindres circonstances de son amour. Ce que souffre Alceste pendant la scène du billet, il a souffert le jour où l'abbé de Richelieu, par une vengeance tout à fait digne d'un laquais, lui a remis les lettres d'Armande. Aussi, Chamfort disait, le misanthrope est une querelle conjugale sublime. Quand Célimène, pressée de se disculper, répond « Il ne me plaît pas à moi !» On croit entendre la femme de Molière. Non, il ne plaisait pas à cette courtisane sans âme, l'aïeule de toutes les filles de marbre de l'avenir, de rompre avec sa vie de galanterie et de désordre. Trop faible était son sein pour que la tête puissante de l'homme de génie s'y pût appuyer et y goûter quelques instants de repos. Et lorsqu'Alceste répond aux représentations de Philinte, n'est-ce pas Molière qui s'adresse à Chapelle ? Non, l'amour que je sens pour cette jeune veuve ne ferme point mes yeux aux défauts. Ne ferme point mes yeux aux défauts qu'on lui treuve. Et je suis, quel quart d'heure qu'elle m'ait pu donner, le premier à les voir comme à les condamner. Mais avec tout cela, quoi que je puisse faire, je confesse mon faible, elle a l'art de me plaire. J'ai beau voir ses défauts et j'ai beau l'en blâmer, en dépit. J'ai beau voir ses défauts et j'ai beau l'en blâmer, en dépit qu'on en ait, elle se fait aimer. Sa grâce est la plus forte, et sans doute ma flamme, de ses vices du temps pourra purger son âme. » On sent, sous ces deux derniers vers, percer une secrète espérance. C'est la dernière et la plus caressée des illusions qui survit à toutes les autres. Espérance vaine, hélas! Armande ne devait pas changer. Quelques années plus tard, par sa conduite avec Baron, elle comblait la mesure. Il était dans la destinée de ce noble cœur d'être trahi par tous ceux qui l'approchaient. Un jour, parmi les petits comédiens du bois de Boulogne, Molière avait distingué un jeune garçon de 11 ans. Il était doué d'une jolie figure, son intelligence était prompte et éveillée, son jeu était remarquable pour son âge. Molière pensa que peut-être il en pourrait faire un grand acteur et se chargea de sa fortune. Il le prit près de lui, dans sa maison, le fit travailler, l'aida de ses conseils comme de sa bourse, enfin le traita comme son fils. Cet enfant n'était autre que le jeune Boiron, dit Baron, qui devait en effet devenir un des plus célèbres comédiens de la Comédie-Française. Il devint aussi le plus illustre des fats. C'est lui qui, enivré de ses succès et de ses bonnes fortunes, disait que les comédiens devaient être élevés sur les genoux des reines. Il reconnut d'ailleurs dignement les bienfaits de Molière. Il séduisit sa femme ou se laissa séduire par elle. Dans les commencements, le fils adoptif et la femme de Molière ressentirent l'un pour l'autre peu de sympathie. Un jour, à une répétition de Mélicerte, où Baron jouait Myrtille, Amande lui donna un soufflet. De ce coup, le jeune comédien s'enfuit et s'enrôla dans une troupe de campagne. Molière le rappela, pour son malheur, et il revint. Les temps étaient changés. Tant que la Molière avait demeuré avec son mari, elle avait haï Baron comme un petit étourdi, qui les mettait souvent mal ensemble par ses rapports. Et comme la haine aveugle aussi bien que les autres passions, la sienne l'avait empêchée de le trouver joli. Mais quand ils n'eurent plus d'intérêt à démêler, elle commença à le regarder sans prévention et trouva qu'elle en pouvait faire un amusement agréable.